Ben, c'est l'histoire du chat Sunday. Le chat Sunday, il a fait une fugue. Et puis, quelqu'un l'a trouvé, l'a remis à la Société protectrice des animaux, qui lui a trouvé une famille adoptive. Sauf que les propriétaires de Sunday, eux autres, ils cherchaient le chat, comprenez-vous? Puis surtout les enfants, c'était leur chat. Alors, à un moment donné, la famille dit, on va appeler SPA, peut-être qu'ils l'ont trouvé. Ben oui, ils l'avaient trouvé, mais ils l'avaient déjà donné. Fait que là, la famille d'origine voulait récupérer le chat, mais pour ça, il avait besoin des coordonnées de la nouvelle famille, la famille d'adoption, et la SPA a dit, on peut pas vous donner cette information-là, c'est confidentiel. Alors, les propriétaires de Sunday sont allés jusque devant la cour d'appel pour avoir le droit de contacter la famille d'adoption pour essayer de les convaincre de leur redonner Sunday. Tout ça pour vous dire que les histoires de chats, de chiens, là, ça va devenir de plus en plus important parce qu'il y a une grande évolution dans ce qu'on appelle le droit animalier. Et pour en parler, on va aller rejoindre le maître Alain Roy, professeur titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Roy.
Bonjour, Monsieur Drainville.
Parlez-nous un petit peu de... D'abord, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à cette histoire de Sunday ou est-ce que vous souhaitez élargir tout de suite. Alors, allez-y, on vous écoute.
Ben, ce qui est intéressant dans cette histoire de Sunday, c'est que la cour d'appel a pris la peine de rendre un jugement, a pris la peine de rendre une décision, et je suis loin d'être convaincu que la cour d'appel se serait aussi facilement saisie il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ça démontre à quel point on considère maintenant ces enjeux-là comme étant sérieux. Habituellement, les ordonnances de type Norwich, là, parce que c'est de ça dont il est question, c'est un peu technique, mais c'est des ordonnances de divulgation d'informations qui sont autrement protégées. Mm-hmm. C'est ce que la SPA a dû faire, donc se soumettre à cette ordonnance. Habituellement, c'est pour des questions financières. Ce sont des ministères du revenu, par exemple, qui sont visés par ces ordonnances pour remettre des renseignements qui sont porteurs de grandes conséquences financières. On s'entend ici que la conséquence, elle n'est pas financière. Elle est émotive. Mm-hmm. C'est pas pour ce que vaut le chat sur le plan monétaire là, qu'on fait ces démarches-là. C'est pour ce qu'il représente sur le plan émotif. Et la cour d'appel s'est saisie. Alors, ça démontre à quel point on ne peut plus considérer ces enjeux-là comme étant banaux, comme étant ridicules, qui ne devraient pas solliciter les ressources de la justice.
C'est très intéressant ce que vous dites. Et on sent ça tout autour de nous. On ne va pas discuter de ce sujet-là, là, mais moi, là, quand par exemple, toute l'histoire des pitbulls ressurgit dans l'actualité, c'est un des sujets les plus émotifs qui soit, un des sujets où l'opinion est la plus polarisée. Tout ce qui touche les animaux suscite énormément d'émotivité, de réaction au sein de la population.
Oui, et pourquoi? Ben parce que l'animal, et je parle précisément de l'animal de compagnie, là, en ce qui nous concerne actuellement, l'animal est beaucoup plus assimilé au troisième enfant de la famille qu'à un bien meuble. D'ailleurs, la loi y fait écho à cette évolution, là, on le sait depuis 2015. Mais je vous mets au défi...
Attendez, on considère de plus en plus les chats et les chiens au même titre qu'un enfant.
Sur le plan social.
Oui.
Bon, sur le plan juridique, on n'en est pas là. Mais sur le plan social, demander à un propriétaire de chien ou de chat si son animal est plus près de l'enfant que du meuble, et il va vous dire qu'il est plus près de l'enfant. Le chat, le chien a intégré la maison familiale. Je vous mets au défi de trouver une seule niche à Montréal. Quand j'étais jeune, on attachait mon chien à l'extérieur et c'était sa place. Et quand on partait en voyage, le chien pouvait rester attaché 2 semaines à sa niche et la voisine venait le nourrir. Mmh. Aujourd'hui, là, c'est impensable de faire ça. Le chien, il est dans la maison quand il n'est pas dans le lit de ses maîtres.
Oh, que c'est bon! Oh, que c'est bon ce que vous venez de dire là. C'est tellement vrai, là.
Alors, c'est pas étonnant, là, l'histoire des pitbulls. La relation que le maître a développée avec son chien est telle que toute intervention externe qui pourrait éventuellement limiter la liberté de son animal enfant, ben, ça vient chercher au plus haut point.
Et là, ce qu'on réalise, c'est que, j'ai appelé ça le droit animalier, c'est en train de prendre beaucoup, beaucoup d'expansion. C'est en train de devenir un droit qui est très important et où certaines sociétés, d'ailleurs, sont en avance sur nous, n'est-ce pas?
C'est vrai qu'on est très en retard au Québec, là. Bon, prenez par exemple simplement le contenu ou les contenus juridiques dans les facultés de droit. Moi, j'ai monté un cours de droit animalier. Ça va être la troisième année cette année qu'il est donné à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Mais sur les campus américains, dans les universités américaines, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des cours d'éthique et de droit animalier. Il y a des maîtrises, il y a des programmes de master, il y a des programmes de doctorat en droit animalier. Alors ici, on en est vraiment au premier balbutiement. Et sur le plan législatif, bon, on a fait, comme je vous l'ai dit, et comme vous le savez, là, un grand pas en avant en 2015 en définissant les animaux comme des êtres sensibles plutôt que comme des biens. Mais il reste que sur le plan du droit civil, les dispositions relatives aux biens sont toujours applicables aux animaux. C'est-à-dire que dans les lois sur le bien-être animal, on ne peut plus considérer le chien, le chat comme une chaise, mais dans les rapports juridiques de droit privé, commerciaux et autres, on applique encore le droit des biens. Je vous donne un exemple. Au moment d'un divorce, s'il est question de savoir avec qui le chien va aller après l'éclatement de la cellule familiale, on a beau dire que le chien est un être sensible, il reste que c'est le droit des biens qui va gérir la propriété de cet animal. Donc,
ça veut dire quoi?
C'est la facture qui va partir avec l'animal, peu importe le rapport que l'animal entretient avec l'autre.
Qui va partir avec l'animal? Je vous ai interrompu, je m'excuse.
C'est celui qui a la facture. Au même titre que celui qui a la facture du lave-vaisselle va pouvoir partir avec le lave-vaisselle. Alors, on ne tient pas compte, au niveau du droit des biens, au niveau du droit civil, de la nature particulière de l'animal. Mais si vous regardez le droit suisse, le droit allemand ou le droit autrichien, on a abandonné ces repères, on en a adopté de nouveaux, et désormais, le chien, au moment d'une rupture conjugale, ou le chat, doit être attribué à celui des deux qui représente la meilleure solution pour l'animal.
Hein?
Donc, c'est le critère de l'intérêt de l'enfant qu'on applique à l'animal. C'est plus une question de propriété.
Attendez un peu, mais M. Roy, là, est-ce que c'est l'intérêt de l'enfant envers l'animal ou c'est l'intérêt de l'animal, point?
C'est l'intérêt de l'animal. Alors, c'est sûr que, bon, c'est difficile de cerner. On peut penser que c'est difficile de cerner l'intérêt de l'animal, mais prenons un test objectif. Monsieur est propriétaire du chien parce que c'est lui qui est allé le chercher à l'animalerie, c'est lui qui a la facture. Monsieur va vivre dans un 2,5 au centre-ville de Montréal. Madame a la garde des enfants et va vivre en banlieue avec un terrain puis un accès au parc. Alors, en Suisse, c'est clair que monsieur part pas avec le chien, même s'il a la facture. Parce que l'intérêt de l'animal, ça va être de vivre auprès des enfants, en banlieue, avec un accès au parc.
Et chez nous?
Ben ici, chez nous, c'est la facture qui va primer. Et d'ailleurs, il y a une cause que j'enseigne à mes étudiants en droit animalier d'il y a à peu près 12 ans, où il était question d'un perroquet, c'est pas une question de valeur économique, mais un perroquet auquel les deux conjoints étaient très attachés. Et quand on lit la cause, on pourrait remplacer le mot perroquet par lave-vaisselle. Et voilà. Je veux dire, le juge n'avait aucune espèce de considération par rapport à la nature particulière du perroquet qui se pouvait représenter pour les conjoints. Pas sûr qu'aujourd'hui, on ne commencerait pas à tordre un peu les barrières du droit, là, puis à prendre en compte un peu plus cette valeur sentimentale, cette valeur différente que l'animal peut avoir par rapport au propriétaire lui-même et au conjoint du propriétaire.
Alors donc, on a fait des progrès, dites-vous, en légiférant et en décrivant ou en reconnaissant l'animal comme un être sensible, mais on a encore des étapes à franchir si on veut se mettre à niveau là, par rapport à d'autres sociétés. Parce que moi, je dois vous dire, l'exemple que vous venez de donner, là, où dans le fond, on prend en compte, oui, l'intérêt de l'animal, mais l'intérêt des enfants qui se sont attachés à cet animal et qui ont besoin d'avoir cet animal pour être heureux, dans le fond, là, c'est ça. Ça vient vraiment me chercher, là. Ça vient vraiment me toucher beaucoup. Là.
Et ça, au Québec, on aurait même déjà les instruments là, pour en arriver à cette conclusion-là, parce que dans notre code civil, on a ce qu'on appelle des mesures de protection de la résidence familiale et des meubles du ménage. Et puis au moment d'un divorce, le juge peut très bien attribuer les meubles du ménage au conjoint qui n'en est pas propriétaire si l'intérêt de la famille le justifie. Bon, alors si on est toujours dans ce paradigme où l'animal est un meuble, ben faisons-en un meuble du ménage là, et éventuellement appliquons cette règle-là. On le fait pour le lave-vaisselle, on le fait pour le mobilier de salon, pour le mobilier de cuisine, on pourrait le faire pour le chien. Ça a déjà été tenté devant le tribunal. Le tribunal a haussé les épaules. On dit que c'est ça, cette histoire-là. Alors, aujourd'hui, et on le voit par le jugement de la Cour d'appel, je pense pas qu'il y a un haussement d'épaules. Aujourd'hui, tout à coup, oups, ces enjeux-là qui étaient frivoles, qui frisaient le ridicule dans l'esprit des autorités, Non, c'est pris avec sérieux, compte tenu de ce que représente justement l'animal, peut-être pas au plan économique, mais au plan affectif à tout le moins.
C'est vraiment fascinant. Maître Alain Roy, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, qui donne ce cours éthique et droit de l'animal et qui se remplit apparemment dans les minutes qui suivent l'ouverture de la période d'inscription, n'est-ce pas, Maître Roy?
Oui, et j'en suis très fier. Une centaine d'étudiants, cours optionnels. Alors, à chaque année, le cours est couru et puis, bon, j'ai l'impression que on fait du progrès. Je dois vous dire que les étudiants en droit sont absolument fascinants. Il s'est passé quelque chose hier dont je dois absolument vous raconter. L'Association des étudiants en droit de l'Université de Montréal a adopté une motion l'an passé pour que la nourriture achetée pour les cocktails, les comités soit végé. Conscience animale, conscience environnementale. On a voulu débattre de cette motion cette année lors de l'Assemblée générale annuelle, pas moi, là, mais les étudiants. Certains la remettent en question massivement. Les étudiants ont reconduit pour des raisons d'éthique animale et pour des raisons d'environnement, parce que tout est lié, hein, quand on sait que l'un des plus grands facteurs contributifs aux gaz à effet de serre, c'est l'élevage intensif, là. Alors, pour des raisons animales, pour des raisons environnementales, ils ont reconduit cette motion et je pense qu'on peut se servir de ces exemples-là. Les jeunes ont beaucoup à nous apprendre.
Oui, la société change. Maître Roy, merci encore.
Bienvenue. Bonne journée.
Loïc Tassé qui s'amène dans un instant pour nous parler là, des tout derniers développements dans l'histoire du juge Kavanaugh. Restez à l'écoute.